un enseignement de Nelson Davis, gendre de Parabisrat. Il dit que ça fait longtemps qu'il s'était posé la question. Vous savez que dans la Shmonesse, elle s'appelle 18 bénédictions parce qu'il y en avait 18 initialement, mais qu'aujourd'hui, il y en a 19. Parce qu'on a ajouté une qu'on a ajoutée à cause des délateurs, des Malchinim. Alors, il s'était demandé, on dit, V'chola Risha Kula, enfin, Kerega Tovet, que toute la méchanceté, donc tous les gens méchants, disparaissent complètement. Teaker, Tchaber, Tmager. Et puis après tout ça, on dit Vetachnia Bimera Biameinu. Donc on a déjà dit qu'ils disparaissent complètement de toutes les manières possibles. Et après on ajoute, mais fais-les plier devant toi en quelque sorte de nos jours. Donc après qu'on les ait détruits complètement, qu'on ait demandé la destruction, alors on demande encore qu'ils soient obligés de se plier devant Hachem. C'est quoi? Pourquoi tout à coup ce rajout, alors qu'ils sont déjà complètement à terre, complètement fichus, hein, il faut encore leur demander qu'ils se plient. Alors il a ramené... La Gemara, elle rapporte que quelques années avant l'histoire de Pourim, Aman, il était dans la dèche la plus complète. Et il s'est vendu comme esclave à Mordechai. Alors, ils disent, il s'est vendu pour un quignon de pain, quoi, pour un bout de pain. Alors, évidemment, c'est pas simplement que on nous rapporte un fait, c'est que ce fait, il est fondamental pour comprendre tout l'enchaînement aussi de ce qui se passe entre Haman et Mordechai par la suite. Mais qu'est-ce que les Chazal ont voulu nous dire par là, en nous racontant que Haman, avant de devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire grand vizir ou quelque chose comme ça, il a passé par une phase où il était esclave de Mordechai. La mitzvah de détruire Amalek dans la Torah, elle est présentée en disant Be'aniach Hashem Elokech Alecha Mikol Oyvecha Misaviv, c'est-à-dire après que tu en es fini avec tous les ennemis alentour, donc ça y est, tu as réduit tous les ennemis, alors, tu dois te libérer et t'occuper de la guerre pour éliminer le souvenir d'Amalek. C'est-à-dire, c'est une nouvelle sugya, qu'Amalek ne fait pas partie des ennemis standards. Alors, que ce soit, donc, on voit dans la Amida, que les autres ennemis ont. On demande leur annulation, etc. Et après, on demande aussi qu'on règle le problème d'Amalek. On a bien entendu besoin d'être sauvé des ennemis alentour. Mais cette paracha de Amalek, c'est une paracha pour soi. De la même manière que Amalek, il s'est singularisé de tous les peuples. On dit dans la Shira Ayam que tous les peuples, Irgezun, Chazen ou Raad, ils tremblent, tout le monde tremble. Tout le monde est paralysé. Amalek, lui, il saute dans la baignoire bouillante, il s'est bouillante, mais ça y est, il l'a refroidi. Bien sûr, on sait très bien, comme il dit, on sait très bien qu'il y a Enod Milvado, on sait très bien que c'est Hachem qui dirige tout ça. qu'il n'y a absolument rien dans le monde qui ait une quelconque puissance pour s'opposer réellement à la Kedusha d'Hachem. Et s'il y a une réalité du mal dans le monde, réalité du mal qui s'oppose à la Kedusha, c'est que cette réalité du mal, elle est ultimement au service du dévoilement du bien. Lui aussi, Akadosh Baruch Hu l'a créé, ce mal, toujours pour le projet divin qui est le bien. Alors, Hazal, ils font dans la provocation un peu, parce qu'ils disent, que le Yetzer Tov, il est Tov, comme on dit. Mais le Yetzer Hara, il est Tov Meod. Tov Meod, c'est la mort, c'est le Yetzer Hara. Comme dit Chazal, que il ou les Aya Yetzer Hara Baolam, s'il n'y avait pas de Yetzer Hara dans le monde, alors il n'y aurait pas de défi, on n'aurait rien à prouver et on ne pourrait pas. En fait, produire le tov. Si on n'a pas le mal, alors le tov n'apparaît pas du tout. Hazal disent même sur l'étude, s'il n'y avait pas d'Yetzerara, il n'y aurait pas ce qu'on appelle chetvata de shmata. Il n'y aurait pas la joie de l'étude. La joie qu'on a quand on arrive à surmonter les difficultés dans l'étude, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas d'Yetzer Hara. Donc ça veut dire que la réalité du mal en elle-même, le fait qu'il y ait du mal, que le mal existe, ce devrait être suffisant du point de vue de la lome douce, en fait. Ça devrait être suffisant comme eritimse, en quelque sorte, comme possibilité de penser. On peut déjà penser qu'on pourrait, la pensée de on pourrait ne pas faire la volonté d'Hachem, l'existence de cette seule pensée à elle-même, l'existence elle-même, sans que on la réalise, c'est déjà suffisant pour réfléchir. Adam Arishon, Hachem lui a dit, ne mange pas de cet arbre-là, peine de peur que. C'est-à-dire, si tu manges, il y aura une sanction. En vérité, Adam Arishon, il aurait pu se contenter, si on peut parler comme ça, de l'existence de ce peine. Si tu dis peine, ça veut dire c'est possible. Sinon, j'ai pas besoin de te dire ce qui se passerait si tu transgresses, s'il est impossible de transgresser. Donc, l'idée que on puisse penser la transgression, ce serait déjà suffisant, on n'a pas besoin qu'elle soit réalisée, cette transgression. Mais qui est-ce qui a fait en sorte que la possibilité ne reste pas sous forme d'une idée, c'est-à-dire, c'est une idée avec laquelle on peut jouer. C'est lui qui a rendu cette possibilité concrète, ça veut dire, oui, ça a eu lieu, c'est Adam Arishon, c'est Adam lui-même. Lui, quand il a échoué, qu'il a mangé effectivement, Et il a fait en sorte que, concrètement, la possibilité de transgresser s'est réalisée. Elle est devenue concrète. Alors que, si vous voulez, dans le Lernen, on aurait très bien pu réfléchir, de même que quand on étudie une sougia, on s'occupe de voleurs, d'assassins, etc., mais on n'a pas besoin de le réaliser. On réfléchit avec la possibilité de l'assassin, la possibilité d'un voleur. Ça n'a jamais poussé quelqu'un à devenir voleur ou assassin. C'était simplement une hypothèse de travail, une idée avec laquelle on peut travailler. Alors après, ça peut se réaliser ou pas. Il y a, par exemple, si vous voulez un exemple beaucoup plus simple, pendant très longtemps, on s'est occupé de ce qui va s'appeler insémination artificielle. Comment on l'a fait? On a imaginé, il fallait dire quelque chose de concret, alors on a dit quelque chose de concret, longtemps on savait très très bien que ce n'était pas possible, la Gemara le dit clairement. On a imaginé qu'une femme soit inséminée, si on veut, par du sperme qui aurait été émis par quelqu'un dans la baignoire dans laquelle elle s'est trompée par la suite. On sait très bien que ça ne marche pas, quoi. Pas possible. Mais bon, on a joué avec cette idée-là, on a développé toute une théorie là-dessus, et quand concrètement c'est devenu possible, on avait déjà toute une théorie, déjà. Nous, on avait déjà réfléchi jusqu'à y compris la halakha à ce sujet-là. Quand les goyim ont commencé à penser que ça serait possible, et même quand c'est devenu possible, on avait déjà réfléchi à ça depuis une centaine d'années. Milliers d'années. Dans le Navi Malachi, il dit « Allo, ach, Esav le Yaakov. » Pourtant, Esav, c'est un frère de Yaakov. « Evet Yaakov, et Esav saneti. » Hachem me dit « Moi, j'ai aimé Yaakov et j'ai haï Esav. » Le texte parle d'abord de « Achva. » « Allo, ach, Esav. » Yaakov. Et ensuite, il parle de, c'est-à-dire, on a deux frères, puis après, il y en a un qui est aimé et l'autre qui haït. Pour rien, hein, sans qu'il ait rien fait. Donc, le le Navi, il présente ça comme, c'est tout, c'est un arbitraire, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait une représentation du bien et du mal dans l'imagination. Peine, ou bien oulaï, peut-être, ou si jamais, etc. Tout ça appartient à ce qu'il appelle, lui, le Gilui Kvot Shamaim. Ça appartient au dévoilement de la gloire divine. Mais à partir du moment où cette chose-là devient concrète, ça existe concrètement dans le monde, lorsque l'homme désire effectivement la date, Tov Vera, et il ne s'occupe pas de la vie elle-même, il s'occupe pas seulement de ces questions très élevées, mais il veut ressentir en quelque sorte, concrètement, activement. Alors, du coup, ce qui se réalise, c'était Sam Saneti. Et Sam, je l'ai haï. C'est une réalité du mal. D'un mal qui maintenant peut faire du mal. Le mal qu'on a dans la tête, quand on envisage la possibilité de transgresser, etc., qui serait le mal, ça fait de mal à personne. Mais quand ce mal devient concret, alors il fait mal. S'il n'y avait pas, justement, tout ça, c'est en réalité, quand c'est à l'échelle sous forme d'idées, de pensées seulement, de marche à botte, ça sert ultimement au dévoilement du bien. Sinon, on ne pourrait pas, si on n'avait absolument aucune représentation du mal, on n'aurait pas non plus la représentation du bien et de la jouissance qu'il y aura à avoir fait le bien. Comme toujours, on ne voit pas la lumière si on n'a pas, si on peut pas, s'il n'y a que de la lumière, s'il n'y a pas d'ombre, on ne voit pas la lumière non plus. On peut comprendre que la paracha des relations avec Amalek, elle ne vient pas du fait qu'il s'est trouvé qu'il y avait un peuple, Amalek, qui se conduit comme ça. Ce n'est pas du tout contingent, en fait. Ce n'est pas comme les autres peuples. Il s'est trouvé qu'ils se sont opposés à nous. Mais ici, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'œuvre même de la création, cette histoire. C'est ce qui a été dit à Rivka Imenu, où le homme et le homme yematz. Tu portes deux peuples, et l'un va se lever contre l'autre et mais, comme dit Rashi, sur place, les deux ne pourront pas être tous les deux en haut. On verra qu'il y a toujours, si l'un est en haut, l'autre est en bas. Comme ça, si Yerushalayim est en haut, alors Césarée, qui représente les Romains, est en bas. Et si c'est Césarée qui est en haut, alors c'est Yerushalayim qui est en bas. Ça lui a été dit à Rivka quand les deux étaient tous les deux dans son ventre encore. Ça veut dire c'était quelque chose de purement théorique. Au départ, il est au service de la Kdusha. C'est pour ça qu'il a été créé, le mal. Et c'est ça que Chazal a voulu nous dire. Haman, en vérité, il est Eved de Mordechai. Il a dû se vendre parce qu'il était complètement dans la dèche, il n'avait pas de pain à manger. Ça veut dire qu'en vérité, il dépend de la réalité de Mordechai. C'est ça que ça veut dire. Mordechai, c'est le côté de la Kdusha. Et le côté du mal, il est en vérité, il vit au crochet de la Kdusha, si on peut parler comme ça. Donc, quand on en aura terminé avec tous les ennemis, là, et avec le centre terminé, on a réglé le problème. Mais maintenant, tu veux encore faire plier cela. C'est un supplément, en quelque sorte. faut leur montrer que tout ça, c'est qu'ils sont entièrement dépendants, sauf dépendants de Yaakov. C'est ce qu'Hachem dit, « Macho emche mitachat ha-shamayim ». J'effacerai le souvenir d'Amalek mitachat ha-shamayim, littéralement de dessous les cieux. « Timche » Qu'est-ce que ça veut dire, mitachat ha-shamayim? Il y en a qui posent la question, mais en vérité, comment est-ce que cette obligation qu'on a de penser à détruire et de détruire Amalek, les mitzvot, elles sont éternelles. Donc, supposez que du temps de David ou de Shaoul, on ait détruit Amalek. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette mitzvot? Il n'y a plus d'Amalek. On l'a détruit. Donc, son souvenir, il est effacé. Toujours marqué dans la Torah, souviens-toi de la haine d'Amalek et de l'obligation qu'il y a de l'effacer son souvenir. Mais qu'est-ce qu'on peut effacer maintenant? Ils sont effacés déjà. Si Shaoul ou David l'avaient détruit. L'idée, c'est que quand on dit qu'Esav, il est le frère de Yaakov, ce n'est pas Tachat HaShamayim. On parle de quelque chose qui est Me'al HaShamayim. On parle de quelque chose qui est fondamental. Me'al HaShamayim. Avant que ça devienne une réalité, mais c'était déjà dans le projet divin, si on veut. Au départ, c'était une idée. L'idée de quelque chose qui serait le contraire du bien. Et donc, exactement comme quand on a dit avant, comme quand on étudie une sugya dans laquelle il y a un voleur ou un menteur, etc., ben, ça fait de mal à personne. Dans la sugya de Yaakov et Esav, ça fait de mal à personne quand c'est sous forme d'idée. Si quelqu'un comprend ce que c'est Esav, comprend ce que c'est Yaakov, cette compréhension-là, elle est entièrement du domaine du Tov. Seulement, elle est Me'al HaShamayim. Elle est au-dessus de Shamayim. C'est-à-dire, ce souvenir qu'il ne faut pas faire de cela quelque chose qui deviendrait Tachat HaShamayim, c'est-à-dire lui donner une réalité au sens de la réalité de ce monde-ci. Là-dessus, il est dit non, Timché, efface ça. Et ça, c'est pour ça qu'Hachem dit Anochi emché. Emché, moi, dit Hachem. Emché, je vais effacer. Donc, je vais effacer moi depuis en haut. De telle sorte que ces idées-là, elles ne puissent pas descendre et devenir concrètes. Tachat HaShamayim. Toi, tu dois l'effacer si elle existe dans le monde d'en bas, c'est-à-dire dans Tachat HaShamayim. Et ça sera toujours là. Parce que toutes ces représentations, ça c'est de la Torah, c'est Emet. Mais ce n'est pas une metziout dans le monde. C'est là simplement pour que on se souvienne de cette opposition du bien et du mal. C'est pour ça que l'otishkach, il est dit après le timché. Efface. Souviens-toi. N'oublie pas. Après le zachor, et après le timché, alors pourquoi l'otishkach? Parce que si la kavana c'est n'oublie pas d'effacer le souvenir, alors on devrait marquer avant, on aurait dû n'oublie pas de timché. Mais l'otishkach, il concerne ce qu'on appelle la klipa d'Amalek. Toute la réalité de la nécessité de cet oubli, c'est seulement Tahad HaShamayim. C'est-à-dire dans la réalisation concrète de la chose. Il ne faut pas laisser faire en sorte que ça devienne une réalité dans le monde. Parce que ça entraîne un Esther Panim. Ça entraîne qu'Hachem se détourne du monde. Mais quand il est effacé, Amalek, alors la réalité du souvenir, de son souvenir, alors ça reste toujours, du coup c'est toujours là, son souvenir, mais comme une idée, quoi. C'est marqué dans la Gemara que Mibne Banav Shel Aman Lamdu Torah Bibne Brak. Il y a des descendants, des fils d'Aman qui étudient la Torah Bibne Brak. Alors, tout le monde pose la question. Il y a une Mechilta qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a juré Nishba Hashem le Kisseh HaKavod. Shein mekablim gerim me Amalek. Hachem s'est engagé à ce qu'on n'accepte pas de gerim venant d'Amalek. Le paradis d'Israël, donc c'est une contradiction. Hachem s'est engagé, puis après on m'a dit qu'en vérité ils sont là. J'étudie. Alors le paradis d'Israël, il a expliqué la chose de la manière suivante. Effectivement, il n'aurait pas, c'était pas possible de, ne leur était pas possible de se convertir au fils d'Aman, au descendant d'Aman, d'Amalek. Mais comment ça a été possible, quand même? C'est que le Beddin ne l'a pas su. Le Din est qu'un Beddin n'a pas le droit de l'accepter. El Bedi n'a pas su qu'ils étaient descendants d'Amalek. Et donc, ils les ont convertis. Ça, il s'avère que ces gens-là, ils étaient du côté du Tov. C'est-à-dire que la Massoret, la tradition qui nous dit Kadosh Baruch Hu a juré qu'on ne l'accepterait pas. Ça veut dire, Hachem a juré que d'après notre sechel à nous, humains, dans le monde d'en bas, on n'a rien à faire de ces gens-là. On n'accepte pas l'éventuelle conversion. Qui me prête? Qu'on efface. Mais benistarot, Hachem et le Kenou le Mala. Les choses qui nous sont cachées à nous, elles ne sont pas cachées à Hachem. Hachem sait que ces gens-là sont d'Amalek. Et ça veut dire que il y avait une nécessité, d'après Hachem, que ces gens-là arrivent, soient convertis. Et il faut que ça se fasse sans la connaissance, voire la connaissance du Beit Din. C'est ça le point. Le mata menashamaim, timche. Le mala menashamaim, c'est une façon, c'est la façon qu'a Hachem de gouverner les choses. Alors c'est ça peut-être le problème, le travail de Had de Loyada, de boire jusqu'à ne plus savoir la différence. Aujourd'hui, on peut arriver à ces idées de Had de Loyada, de Naru Raman le Baruch Mordechai. A priori, notre date, il comprend pas ça. Mais bon, c'est le sauvetage de Pourim qui nous dit que ça vient de très très haut. Ce sujet-là, il vient de très très haut. Et c'est pour ça qu'on dit que les Yemea Pourim ne vont pas disparaître. Parce qu'ils font pas partie de l'ordre du concret du monde. Ils viennent de plus haut, ces jours de pourri. Peut-être qu'on pourrait dire, dans la mesure où Pourim, c'était une solution finale, pour qu'une solution finale se termine avec zéro mort, il faut qu'Hachem s'en mêle, quoi. Ça veut dire que ce n'est plus quelque chose qui est de ce monde-ci. La chose, elle dépasse complètement. C'est un truc absolument incompréhensible. Ça se joue à un niveau qu'on ne comprend pas du tout. Alors, on peut essayer de réfléchir dans ce sens-là, parce qu'on avait déjà vu souvent que il y a eu, à l'époque moderne, il y a eu deux grandes tragédies pour le clan Israël. Il y a la Shoah, et avant, il y avait eu l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et ces deux grandes tragédies, elles correspondent à deux tragédies, en fait, qui ont eu lieu entre, après la destruction du premier Beit HaMikdash et avant la destruction du second. C'est-à-dire Pourim et Hanouka. Elles sont tout à fait analogues. Pourim, c'était une solution finale. La Shoah, c'est une solution finale. Ça veut dire, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas s'échapper. Par opposition à Hanouka et l'expulsion des Juifs d'Espagne, si on se convertissait, on n'était pas expulsé d'Espagne. Si on adhérait aux idées grecques, les Grecs ne nous faisaient pas la guerre. Donc, on a Pourim qui va avec la Shoah et Hanouka qui va avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et ce qu'on a vu dans Pourim, que l'histoire de Pourim, c'est-à-dire l'éradication complète, c'est ça le projet des deux, de Haman et d'Adolphe. Ça, c'est un truc qui, ça touche à l'équilibre théorique du monde, quoi. Il n'y avait pas où aller non plus, parce que personne n'a vraiment ouvert les portes. Aucun pays n'a vraiment ouvert les portes. Et à Pourim, c'était l'Empire entier qui était en cause. En Espagne, il y avait deux possibilités. On pouvait ou se convertir et rester en Espagne, où on pouvait partir. À Hanouka, on pouvait ou bien adhérer ou partir. On pouvait aussi partir. Dire que quand ça touche à l'équilibre du monde, c'est des, ça touche bien, à, ça touche aussi à le malam et la shamaim. On a l'impression que Hanouka et l'expulsion, c'est le tahad ha-shamayim. Et les deux autres, c'est me'al ha-shamayim. Comme ça, on comprend un peu mieux comment ça s'est déroulé, comment finalement il n'a pas réussi à mettre son projet à, enfin, à réaliser tout son projet. Il a malheureusement très bien réussi, mais pas aussi bien qu'il le voulait. Parce que là, il allait du plan du monde, en fait. Il n'y a plus de clan Israël, alors il n'y a plus de raison de monde, puisque le monde s'est déjà disqualifié pour faire ce qu'Hachem demandait. Et si on supprime le clan Israël, alors il n'y a plus personne pour faire ce qu'Hachem voulait. Tandis que si on peut fuir, alors on peut se reconstituer ailleurs, etc. C'est pas encore sûr, c'est vraiment perdu. Je sais pas, j'ai pas encore réussi à, j'ai pas eu le temps vraiment de bien réfléchir. Est-ce qu'il y a aussi autant vraiment de la Torah? Est-ce que le Vaudor et les Meraglim, c'est aussi un couple de ce genre-là? C'est autre chose, puis ça se passe dans le clan Israël, mais ça, peut-être il faut réfléchir à ça, je sais pas. Je suis pas sûr. En tout cas, c'est la correspondance, elle est bien là. Et donc, on voit bien que Pourim, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est pour ça que c'est hors du temps. La preuve, c'est que Pourim, c'est la seule fête qui va rester. Parce qu'elle est hors du temps. Les autres fêtes, elles sont vraiment le Kadesh Israël et Azmanim, elles sont liées au temps. Pourim n'est pas vraiment lié au temps. On a fixé une date, mais pas vraiment lié au temps. On voit très bien que la lecture de la Megillah, il y a toute une fourchette de jours durant lesquels on peut lire la Megillah, qui est la mitzvah de Pourim essentiellement. Il n'y a pas de... On ne te dit pas, le chauffard, tiens, ben vous pouvez le sonner, si ça ne vous arrange pas de le sonner en Rosh Hashanah, vous pouvez le sonner, je ne sais pas, 3 jours avant et 3 jours après. Ou bien manger la matzah, vous pouvez manger la matzah ou 3 jours avant ou 3 jours après, c'est pas obligé de le manger le soir même. Ça n'existe pas, ça. Pourquoi Pourim, on peut faire une partie des choses différemment pour toutes sortes de raisons, mais pourquoi? C'est bien que c'est pas si fortement lié au calendrier. Et en plus, finalement, ultimement, ces jours-là, ils ont été définis à partir de la définition des jours faite par Aman. C'est pas les Bnei Israël qui ont fixé, c'est pas Hachem a pas dit aux Bnei Israël ça aura lieu à telle et telle date. C'est fixé par les Chachamim. Enfin, par les Chachamim sur, en fait, en réponse à la fixation par Aman. Hanouka, c'est fixé par les Chachamim, mais c'est les Chachamim eux-mêmes qui ont décidé. C'est pas les Grecs qui ont décidé quelque chose qui nous a poussé à fixer ces jours-là.
Pas du tout.
Je crois qu'il y a un blocage.
Mérav, il semblerait qu'on vous a perdu sur la ligne.
Il risque pas de t'entendre. Quoi, comme ça ?
Pas sûr, des fois c'est...
Comme ça, tac.
Voilà, là il est parti. Oui.
Enfin, il a disparu. Enfin, on ne le voit pas. Abracadabra, Abracadabra, souf, Ousmane.
Et je te vois pas, Paul.
Incognito, Nissar. Shanatova à tout le monde.
Hein, Shanatova?
Shanatova bientôt. Rosh Chodesh Nissan. Chinois, Nissan, tout ce qu'on veut, on ramasse.
Non, je pense que tout ça est enregistré.
Moi aussi j'enregistre. Je te renvoie si tu veux.
Non, pas de problème.
Je vois.
Je ferai une coupure.
Aïe. Bonsoir Ezra.
Bonjour, bonsoir.
Bon, oh ben.
On ne voit toujours pas, hein?
Non.
Non, c'est bizarre.
Mais moi non plus.
He's gone away. Monsieur Alvaz, monsieur Station Distingué. Je crois qu'il nous a laissé. Pas tombé.
Boum.
Bon.
Shavatov, Mazatov.
J'ai que... Ah, voilà.
Ah.
Un saveur.
Voilà.
Donc on disait que... Oui, donc on a vu ce Hazal qui dit que Akadosh Baruch Hu avait annoncé que on n'accepterait pas les guérim de... en provenance d'Amalek. Le Maharal, il dit que על ידי ששמע יתרו מלחמת עמלק, קריאת ים סוף בא ונתגייר. יתרו il est venu et il s'est converti parce qu'il a entendu קריאת ים סוף et aussi la guerre contre עמלק. Donc, comment c'est possible que les choses... Il s'est demandé, mais... Il s'est dit, c'est pas possible qu'Hachem fasse des changements pareils, des trucs comme ça. Yitro Lamad, il a appris que la guéroute est possible. Il l'a appris à partir de Kriyat Yam Souf. C'est pas très clair. Qu'est-ce qui, dans Kriyat Yam Souf, lui a donné la compréhension que on peut se convertir et entrer dans le clan d'Israël. On lui propose de dire que, en ce qui concerne Israël, là, il s'agissait de revenir sur Maasé Bereshit. On a dit que dans Kriyat Yam Souf, ça a touché à la au tnaï, à la condition que Hachem avait mise dans Maasé Bereshit. C'est-à-dire que donc on touche ici à l'ordre de Maasé Bereshit. C'était marqué Kavu Amaim. C'est écrit Kavu Amaim, que les eaux se rassemblent en un endroit. Et comme c'est marqué dans le Midrash, Dafka Misham ou She Yotze Koach le Gerut, Amave Chidush Yetzira Kekatan Shenolad Dami, Vu Avaya Chadasha. Donc c'est parce que Ikavu Amaim, il y a ce, qu'est-ce que ça veut bien dire ici, Ikavu Amaim, donc, les eaux se sont rassemblées. Et donc, de là, il en a déduit que on peut se rassembler, on peut s'adjoindre au clan d'Israël. Mais sur la guerre contre Amalek, c'est écrit, c'est sûr qu'il a entendu ça, mais Amalek aussi, il a entendu. Amalek a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté dans la baignoire, il a refroidi la baignoire. Et ça n'a rien à voir à ce commencement comme la création de un moment de création comme dans Kriyat Yam Souf. Et donc, si lui... Il n'a rien appris à Kriyat Yam Souf. Et quand il entend ce qui s'est passé, lui, il saute dans la baignoire. Et... Donc, il s'est mis en dehors complètement de la notion de Guéroute. La Guéroute, elle est possible sur le modèle de la Guéroute d'Yitro. Kol Guéroute ba'al kochach, שלוקח לו מכוח התאוות של יצירה חדשה. גירות s'est construit sur la possibilité d'une nouvelle création. Et ça, c'est seulement à partir d'Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toute création. Et il n'y a pas de création yesh me yesh, ça veut dire, c'est yesh me ayin. Et ce qu'Amalek a fait de refroidir la baignoire, en quelque sorte, c'est essayer de cacher le dévoilement du type Yetziat Mitzrayim, Maaseh Bereshit, pardon. Kriyat Yam Suf, ça touche à cela, comme on a dit avant. Ça touche au problème du Kavua Maim. Il y avait un Tnaï de Maaseh Bereshit. Quand Kadosh Baruch Hu, il a dit, je mets un comme Tnaï que vous allez vous fendre quand les Bnei Israël devront passer la mer. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle lui, il n'a rien à voir avec un chidouche de Yetzira dans le monde, Amalek. Lui, c'est tout pour lui, les choses, c'est tout est l'ordre de ce qu'on appelle Mikré. C'est complètement contingent. Le Bitul Koach Amalek, après que Aman est tombé, donc là, c'est l'annulation d'Amalek. Rabim me'ameharetz mitya'adim. Amalek est tombé, qui niait la possibilité de la guéroute. Alors beaucoup de gens se sont convertis. C'est comme ça qu'il essaye de présenter la chose. Pourquoi est-ce que Amalek a un statut particulier qui fait qu'on n'accepte pas les guérims d'Amalek? Il y a des gens bien. D'ailleurs, on voit très bien qu'il y avait des gens bien. Donc, ils sont d'Amalek. Les descendants qui sont devenus, qui vont l'emmener à Bnebrak, ils sont pourtant d'Amalek. Les descendants d'Aman. OK. Simplement, il ne fallait pas que le Bédine le sache. Parce qu'ils ne sont pas dans la démarche de la conversion. Parce que la conversion, c'est sur le modèle de la conversion d'Yitro. Et Amalek, ce qui a poussé Yitro à se convertir, il le nie complètement. Il en a fait autre chose. C'est son idée. C'est intéressant d'essayer d'expliquer pourquoi, effectivement, ce n'est pas simplement une punition pour d'Amalek, qu'on n'accepte pas les gens d'Amalek. Ça n'a rien à voir avec une punition. C'est que lui, il ne reconnaît pas le principe de la conversion. Donc ça veut dire aussi qu'on considère que le modèle de la conversion, c'est Yitro.
Ça pose...
dire, peut-être pour les hommes, c'est comme ça. Pour les femmes, le modèle de la conversion, c'est Ruth. La démarche de Ruth, c'est pas exactement celle-là.
Ça pose un problème sur la définition de la conversion. Si c'est une rupture de la filiation biologique, alors pourquoi on fait référence au fils d'Aman, au fils d'un tel ou d'un tel? Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'il y a une continuité, donc c'est pas de ça qu'on parle, c'est pas la guéroute. Si il y a la guéroute, il y a une rupture de la continuité.
Mais justement. Quand il voit la rupture de la continuité, c'est-à-dire la rupture de la continuité de l'eau pour que l'eau se fende, oui. Lui, qu'est-ce qu'il en déduit? Rien du tout. Il dit c'est dû au hasard. D'accord, c'est contingent. On va se brûler, mais on peut attaquer Israël.
Alors on pourrait comprendre que les fils d'Aman, quand ils ont fait en sorte, s'ils ont fait en sorte que le Beddin ne sache pas qu'ils étaient les fils d'Aman, oui. À ce moment-là, pourquoi on rend leur conversion valable, Bedi Eved? Si on dit que Beretsem, ils ont caché un élément essentiel.
Mais ce n'est pas eux qui l'ont caché, probablement. Je ne sais même pas s'ils en étaient eux-mêmes conscients. Parce que j'ai l'impression que si eux en étaient conscients, les autres aussi, éventuellement, ils l'auraient su. Personne ne sait, on n'a pas pensé, Ils se sont enfin, ouais, ils ont disparu dans la masse et on n'a pas. Mais non, si on dit comme tu dis toi, qu'ils l'auraient caché, alors quoi, tu voudrais qu'on n'accepte pas?
Les Chazal disent qu'on n'a pas le droit de convertir un fils d'Amalek ou bien qu'il n'est pas reçu dans le clan d'Israël, dans le clan d'Israël.
C'est Hachem qui a dit. Hachem a dit, je jure qu'on n'acceptera pas.
Ah. Même à
Tri. Évidemment, d'abord lui, il savait. Donc ça veut dire que lui... Hachem, il sait bien que c'était les fils d'Aman. Pourquoi il n'a pas soufflé au Beddin que c'est les fils d'Aman? Donc ça veut dire qu'il considère que c'est une halakha du Beddin, quoi. C'est comme un karet, quoi. C'est bon, d'accord, la personne, elle mérite ça. Mais Hachem, qui tient compte de toutes sortes de choses, il a décidé autrement. Mais là, il avait juré, mais il faut croire que la jurée par rapport au Kissé à Kavod, peut-être. Le Kissé à Kavod, c'est par rapport à l'humanité, quoi. C'est-à-dire, c'est dans son rôle de Meler. Le Meler, c'est par rapport au peuple. Donc, c'est possible que là, d'avoir pris le Kissé à Kavod comme objet en main pour faire qu'elle soit une Kita Trefetz, alors ça montre que c'est par rapport à son rôle de Meler qu'il a juré. C'est-à-dire, dans le peuple, dans les règles dans ses règles, il a que on n'accepte pas. Mais ça, c'est le mala tarada shamaim, mais le mala mina shamaim, ça peut se passer autrement. Ça relève pas du beddin.
Dimension de rachamim à ce moment-là.
Oui, peut-être c'est rachamim. En tout cas, bon, c'est sûr qu'on passe par un beddin, mais c'est pas la décision ultime du Beit Din, quoi. On voit que quand des gens, quand la conversion se fait, elle se fait. Je veux dire, quand ils ont réussi à se faire passer pour des, enfin, c'est pas la conversion là-bas. Ils sont aussi, ben, quand ils ont essayé de se faire passer, quand les Amalekim ont essayé de se déguiser et de se faire passer pour des non-Amalekim, Hachem s'est débrouillé pour que ça ne marche pas, quoi.
Mais les Gibbonim, eux, ça a marché pour eux quand ils ont fait un faux serment.
Alors, les Gibbonim, ça a marché parce que... Bon, effectivement, le Beddin ne savait pas, mais après, on leur a... Je ne sais pas comment on a justifié qu'on leur donne un... On les prend pour des juifs, on leur donne un statut de inférieur, quoi, socialement inférieur. Je ne connais pas bien la Souga, là, je ne sais pas comment on explique ça. Ça ne paraît pas très facile à comprendre. Ou bien tu dis que c'est des juifs de plein pied, ou tu dis, bon, c'est bon, la guéroute n'est pas bonne, terminée, je veux dire. OK.
Semaine. Bonne semaine.
Bonne semaine.
Shkoyer, Kotevor.
Kotevor.
Portez-vous bien.